Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Dans le domaine des énergies, un double problème persiste. Remplacer les énergies fossiles, par définition épuisables, par des ressources renouvelables, simple en théorie, beaucoup plus complexe à mettre en œuvre en réalité. Et puis, le grand problème du stockage de l'énergie, qui est un problème que l'on rencontre depuis longtemps. À cette double problématique, il semble qu'une solution s'esquisse de plus en plus sérieusement, l'exploitation de l'hydrogène. L'hydrogène que l'on trouve en quantité infinie, dans l'eau bien sûr, mais aussi dans la biomasse, n'est pas une énergie en tant que telle, mais un vecteur d'énergie. Alors quelle différence ? Elle est énorme, car voilà enfin un moyen de stocker l'énergie électrique provenant par exemple de panneaux solaires, résolvant le problème de l'intermittence dans les énergies vertes. Mais, car il y a un mais, pour produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse, d'une pile à combustible, il faut utiliser des matériaux très onéreux, de l'or ou du platine qui rendent l'exploitation de cette technologie à l'échelle industrielle assez difficile. C'est pourquoi des équipes de chercheurs observent depuis quelques années avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans la nature pour pouvoir s'en inspirer et trouver des catalyseurs remplaçant les métaux précieux. Regardez par exemple ce méchant Helicobacter pylori qui est la cause de nombreux ulcères. Il tire son énergie à partir de l'hydrogène qui se trouve dans notre intestin. Et que dire de ces organismes qui vivent à proximité des fumeurs noirs, ces grandes cheminées que l'on retrouve dans le plancher océanique très profondément ? Ces organismes se nourrissent de l'hydrogène comme nous pourrions avaler du sucre pour notre énergie. Les exemples ne manquent pas. Les chercheurs, ainsi donc, se bio-inspirent de la nature. Alors, qu'en est-il de cette bio-inspiration en matière d'hydrogène pour développer des piles à combustible moins coûteuses et exploitables à l'échelle industrielle ? C'est ce que nous allons voir en compagnie de nos deux invités ici dans le studio, Marc Fontecave et Vincent Artero. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Marc Fontecave, vous êtes chimiste, spécialiste international de la chimie bio-inorganique. Vous travaillez au laboratoire de chimie et biologie des métaux à l'université Joseph Fourier de Grenoble, et donc un laboratoire mixte avec le CEA et le CNRS avec Vincent Artero ici avec nous. Vous êtes également professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Vincent Artero, vous êtes donc chercheur au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est le nouveau nom du CEA. Vous travaillez donc avec Marc Fontecave à Grenoble, à l'université Joseph Fourier, avec donc laboratoire mixte CEA-CNRS. Et j'ajoute que vous venez de recevoir le prix Mergé-Bourdeix de l'Académie des sciences le 12 octobre 2011. L'idée de produire et d'utiliser de l'hydrogène comme carburant n'est pas nouvelle, Marc Fontecave.
Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on pense que l'hydrogène peut être utilisé comme carburant. Le problème, c'est que très rapidement, des sources comme le pétrole, le charbon, les sources fossiles sont arrivées dans nos sociétés et très rapidement, cet hydrogène n'est pas allé plus loin.
Vincent Artero. L'hydrogène est quelque chose qu'on utilise déjà un peu, mais pas sous forme d'exploitation potentielle pour les transports, par exemple.
Oui, alors effectivement, l'hydrogène, comme le disait Marc Fontecave, déjà Jules Verne citait que ce serait probablement une des sources d'énergie ou un des vecteurs d'énergie qui permettrait aux sociétés futures de fonctionner. On entend souvent parler d'utilisation d'hydrogène dans des piles à combustible de voitures. Mais en fait, il y a de nombreux problèmes, essentiellement en ce qui concerne la mise au point de matériaux performants pour pouvoir produire, stocker et utiliser de l'hydrogène dans des dispositifs que tout un chacun pourrait posséder.
Alors, on va en venir sur comment fonctionnent ces piles à combustible. Parfois, quand on parle de piles à combustible, on parle aussi de moteurs à eau. Alors, en soi, l'eau n'est pas un carburant, c'est l'hydrogène qui va servir de carburant, mais comment expliquer justement cette terminologie de moteur à eau qu'on a entendu et qu'on a utilisé pendant aussi de nombreuses années. Marc Fontecave.
Oui, enfin, de mon point de vue, c'est une erreur d'utiliser ce terme-là, parce que bien évidemment, comme vous l'avez dit, l'eau n'est pas un carburant. Sa conversion en hydrogène qui fait de l'eau un élément majeur de la filière hydrogène. Je rappelle qu'actuellement, l'hydrogène est produit pour des fins industrielles autrement que par l'eau. C'est par des hydrocarbures et c'est aussi un des éléments qu'il faut changer. Donc non, il ne faut pas parler de moteur à eau. Il faut bien faire comprendre à tous une chose très très importante, qui est que si on veut utiliser l'hydrogène et le contenu énergétique de l'hydrogène, il faut avoir en tête que pour le produire, on va dépenser au mieux la même quantité d'énergie que pour le produire. Donc le bilan est nul, donc il faut trouver une source d'énergie. Donc parler de moteur à eau, ça laisse sous-entendre qu'on aurait quelque chose comme le pétrole qu'il suffirait de mettre dans les moteurs, ce n'est pas le cas. Il faut de l'énergie pour transformer cette eau en hydrogène.
Alors justement, dans une conférence que vous avez donnée au Collège de France, mais également à l'Académie des sciences, où vous avez présenté un documentaire de 17 minutes sur l'hydrogène bio-inspiré, et également vous, Vincent Artero, dans une vidéo qu'on retrouve sur le site du Palais de la Découverte, un chercheur, une manip, vous nous expliquez comment l'hydrogène pourrait être produit à partir de panneaux solaires, par exemple. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Vincent Artero, quel est le processus, quel est le fonctionnement ?
Oui, bien, donc l'hydrogène est produit essentiellement donc à partir de l'eau par un processus qu'on appelle l'électrolyse, donc où on utilise du courant électrique qu'on fait passer à travers une solution qui contient de l'eau et donc à une des électrodes, donc à un des fils qui plonge dans cette solution d'eau, on produit de l'hydrogène et de l'autre côté, on va dégager de l'oxygène. Donc il faut pour ça un courant électrique et cette énergie électrique peut venir de panneaux photovoltaïques qui, elles, donc convertissent l'énergie solaire en électricité. Donc ça, c'est un moyen où on voit que l'énergie solaire est d'abord transformée en électricité dans un panneau photovoltaïque, puis transformée en hydrogène sous forme de ce qu'on peut appeler un carburant, puisque là, l'énergie est maintenant sous une forme chimique, dans une liaison chimique entre deux atomes d'hydrogène. Et cette énergie stockée dans la molécule d'hydrogène peut, à son tour, dans une pile à combustible, être reconvertie en électricité. Donc on voit qu'on a un cycle complet qui permet de stocker de manière intermédiaire sous forme d'hydrogène de l'énergie solaire. Et donc c'est une solution pour stocker une source d'énergie intermittente et inégalement répartie sur le territoire qu'est l'énergie solaire.
Donc une sorte de super batterie, puisqu'il existe déjà des batteries électriques lithium-ion.
Oui, ben en fait, quand on parle de batterie, c'est le terme moderne, mais avant, on appelait ça une pile. La seule différence, c'est que dans une pile ou dans une batterie, l'ensemble du carburant est contenu dans l'enceinte. Et soit on la jette lorsqu'elle est épuisée, soit on la recharge quand il s'agit d'un accumulateur. L'avantage de la pile à combustible, c'est qu'il n'y a pas besoin de la recharger, puisqu'en fait, on lui apporte sa nourriture, son combustible, au fur et à mesure qu'elle débite du courant. Donc en fait, ce sont deux dérivés du même principe technologique, ce sont des convertisseurs qu'on appelle électrochimiques.
Marc Fontecave, sur ce point.
J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que il faut bien voir que l'hydrogène est une forme de stockage de l'énergie. Hein. Donc, en convertissant l'énergie solaire en carburant hydrogène via l'électricité, on accumule de l'énergie stockée qui ne réagit pas tant qu'on ne l'utilise pas ensuite dans une pile à combustible.
Alors justement, parlons de ces piles à combustible. Pour réaliser cette catalyse, il faut des matériaux assez onéreux, du platine, de l'or. Ils sont onéreux justement, c'est parce qu'ils sont en quantité limitée. Et vous travaillez justement, on parlait d'un terme bien spécifique, vous êtes bio-inspiré, vous regardez ce que fait la nature pour essayer de vous approprier certaines fonctions et les restituer, les synthétiser. Où en êtes-vous dans vos recherches, Vincent Artero, sur ce point ?
Oui, alors bon, tout d'abord, effectivement, on a jusqu'à présent parlé de produire l'hydrogène et là, on a besoin d'un électrolyseur. Et en ce qui concerne les électrolyseurs, on sait faire des électrolyseurs. Ils sont encombrants, mais qui fonctionnent avec des métaux, avec des électrodes à base de métaux abondants comme le fer et le nickel. Mais pour la pile à combustible, on n'a pour l'instant pas d'autre solution que d'utiliser notamment du platine.
Parce que c'est plus performant ?
Parce que c'est le seul métal qui a les propriétés catalytiques effectivement adaptées, c'est-à-dire à la fois en termes de puissance que l'on va chercher, mais également en termes de rendement. Et dès qu'on quitte à l'heure actuelle le platine, les rendements passent en dessous du pourcent, voire du centième de pourcent. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de futur technologique à des piles à combustible. Jusqu'à quelques années, il n'y avait pas de futur technologique à une pile à combustible sans platine. Donc effectivement, nous, le début de notre activité de recherche, en fait, ça a commencé début 2002, c'est l'observation que certains micro-organismes étaient capables de réaliser la même réaction que celle qui a lieu dans une pile à combustible et que ces organismes n'utilisaient pas de métaux précieux. En particulier, ces organismes utilisent du nickel et du fer, donc deux métaux abondants. Et donc, c'est à partir de cette observation qu'on a commencé donc, ce projet de recherche qui a abouti à la mise au point de matériaux catalytiques pour la conversion de l'hydrogène en électricité à base de ces métaux abondants.
Alors, j'ouvre une parenthèse. Vous parlez de catalyse. Actuellement, on utilise pour nos voitures des pots catalytiques. Est-ce que, à terme, ces recherches que vous menez justement sur cette substitution du platine pourraient servir à ces pots catalytiques dans les voitures ? Marc Fontecave.
La notion de catalyse, c'est une notion qui devient très très importante aujourd'hui dans la plupart des processus industriels, parce que, comme vous le savez, un catalyseur, c'est ce qui permet de rendre les processus mis en œuvre rapides, et puis même au-delà de ça, sélectifs. Hein, bon. Donc c'est une technologie extrêmement importante dans ce contexte nouveau de chimie verte. Alors dans les pots catalytiques, on les appelle comme ça parce qu'effectivement, il y a des réactions qui sont catalysées par des métaux. Évidemment, tout catalyseur n'est pas actif dans toutes les réactions. Mm-hmm. Il est évident que notre catalyseur, enfin le catalyseur bio-inspiré que nous avons mis en œuvre, enfin découvert et mis en œuvre pour une application dans les électrolyseurs ou les piles à combustible, n'est pas adapté aux réactions qui se passent dans les fameux pôles catalytiques et pas adapté dans d'autres réactions. Donc à chaque réaction, son catalyseur. Donc lorsque vous étudiez un processus, vous découvrez un catalyseur qui est adapté à ce processus, mais qui n'est dans la plupart des cas pas applicable aux autres réactions.
Alors, je ferme la parenthèse concernant ces pots catalytiques, mais restons dans le domaine des transports. Ce qui pourrait être en partie révolutionnaire, c'est que jusqu'à présent, ces énergies vertes mais intermittentes, telles que le solaire ou l'éolien, on ne l'envisageait pas pour le transport. Or, là, avec ces piles à combustible qui seraient alimentées, avec ces panneaux photovoltaïques par exemple, parce que je crois que c'est ce qui serait le plus intéressant, pourrait permettre justement une exploitation dans le domaine des transports, Vincent Artero.
Alors, oui et non. Parce que l'hydrogène a longtemps été considéré comme effectivement un carburant ou un combustible idéal pour des voitures électriques qui auraient donc une autonomie énorme. Et ça reste vrai. Il y a toujours le problème que les piles à combustible sont trop chères. Et un deuxième problème, que le stockage de l'hydrogène, donc de manière embarquée dans un véhicule, de manière à conférer une autonomie suffisante de l'ordre de quelques centaines de kilomètres à un véhicule, est toujours un problème non résolu. C'est des problèmes de compacité essentiellement et de poids du dispositif de stockage. Donc oui, l'hydrogène peut permettre de révolutionner le transport, mais pour l'instant, la plupart des industriels ont repoussé cette échéance et on voit bien que la plupart des véhicules électriques que l'on nous propose à l'heure actuelle sont des véhicules à base de batterie, dont les progrès ces deux dernières décennies ont permis d'augmenter de manière significative la longévité et la performance.
Marc Fontecaire.
Oui, je voudrais rajouter que, bon, c'est vrai que le transport est un problème. C'est essentiellement là qu'on va devoir remplacer le pétrole, donc les carburants fossiles. Enfin, c'est particulièrement vrai dans notre pays où le nucléaire fournit 85% de notre électricité. C'est un autre débat. Je vais un peu plus loin que Vincent en disant qu'il faut faire attention. Si on ne pense hydrogène que sur l'aspect transport, là, on va vers des difficultés parce qu'effectivement, à court terme, en tout cas, on n'a pas résolu tous les problèmes qu'a évoqué Vincent. Et donc, on va avoir des réponses des industriels, des réponses des responsables politiques, etc., qui vont être plutôt des réponses négatives, parce qu'on va se focaliser sur le transport. Mais ce qu'il faut bien voir à nouveau, je le répète, c'est que l'hydrogène est une forme de stockage de l'énergie, qui ensuite peut être utilisée dans des tas d'autres applications. Il y a une quantité d'énergie colossale dans la molécule d'hydrogène qui peut être utilisée dans tout un tas d'autres applications, applications pour alimenter toutes sortes de dispositifs qui consomment de l'énergie. Se focaliser sur les transports, c'est un risque de mettre fin à l'aventure hydrogène.
Vincent Artero, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Par contre, effectivement, des choses qui peuvent être envisagées, c'est qu'il y ait des stations-service qui, elles, soient équipées de panneaux photovoltaïques, qui stockent cette énergie photovoltaïque sous forme d'hydrogène, et permettre la recharge de véhicules, voire la recharge de batteries en continu, et puis ces batteries étant échangées sous forme d'un échange standard avec des véhicules qui viendraient non pas faire le plein, mais échanger leurs batteries pour pouvoir repartir pour 200 km.
Mais on partirait sur quelle autonomie avec une pile à combustible ?
Alors, si pour l'instant les batteries permettent d'avoir environ 200 km d'autonomie dans un véhicule de taille moyenne, c'est clair que la pile à combustible, elle permettrait d'atteindre plutôt plus facilement les 400, 500, 600 km d'autonomie. Mais pour l'instant, la technologie n'est pas capable de le faire à un prix, à un coût...
Qui soit intéressant pour les industriels, j'imagine.
Intéressant pour les industriels et acceptable pour celui qui achètera la voiture. Par contre, si on veut mettre une pile à combustible dans une voiture, on va à peu près à l'heure actuelle doubler son prix, ce qui est complètement impensable. Par contre, si on envisage d'équiper une maison de panneaux photovoltaïques et d'un électrolyseur, d'un dispositif de stockage et d'une pile à combustible de manière à rendre cette maison autonome, là, on va peut-être rajouter 10 à 15% au prix d'une maison. Quelque chose que, finalement, un consommateur averti, et un peu écologiste dans l'âme, serait prêt à faire, on va dire, pour la bonne cause.
Alors, juste pour terminer sur ce côté transport, avant peut-être de venir à l'habitat, par exemple, en 2008, je crois savoir qu'il y a un avion qui a volé avec une pile à combustible. Et donc, justement, est-ce qu'on est proche des applications à venir dans le monde du transport ou est-ce qu'on en est loin ? Est-ce que c'était vraiment pour mettre un coup d'accélérateur à cette technologie en devenir ?
C'est amusant de parler d'avion parce que quand on parlera de chimie bio-inspirée, on pourra peut-être faire le parallèle puisque finalement toute l'aviation s'est fait par bio-inspiration, le développement à partir de l'observation du vol des oiseaux. Bon, forcément, l'avion qui a fonctionné avec une pile à combustible, il devait être...
C'est un avion très léger.
Voilà, hein. très léger. Il ne devait pas emporter. Enfin, il
non,
devait
non,
pas
c'était
y
pas
avoir
un Boeing.
Voilà, c'est ça. Donc, tout est possible. Pour l'instant, on en est effectivement à l'étape de démonstration. Par contre, plus intéressant, il y a un bateau qui fonctionne avec une pile à combustible que le CEA développe. Et là, on sait bien que le transport maritime a besoin de beaucoup moins d'énergie que le transport aérien. Et donc, dans le cadre des transports maritimes, ça peut être, par exemple, sur une péniche ou sur un petit bateau, ça peut être beaucoup plus pertinent.
Donc, ce serait plus réaliste, ouais. Dans le domaine maritime. Marc Fontcaire.
Oui, non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent. Souvent, j'insiste sur le fait que toutes ces technologies dont on parle parfois et qui sont peut-être pas très bien connues par le grand public sont des technologies qui existent, qui fonctionnent. Pas besoin de les inventer. Vous évoquez un avion, mais effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais il y a des voitures et des camions qui fonctionnent avec de l'hydrogène très très bien. Et il y a certains pays qui ont commencé à installer des stations où on peut récupérer de l'hydrogène et alimenter ces voitures et ces camions. Donc ça existe, c'est pas si compliqué que ça. Donc ça donne de l'espoir. Bien sûr, c'est ce qu'a dit Vincent, tant que ça coûtera ce prix-là, on n'ira pas plus loin. Donc il faut travailler à diminuer les coûts des matériaux, les problèmes de stockage, de confinement dans les réservoirs, enfin bon, il y a toutes ces questions-là. Mais il est important de dire tout le temps que toutes ces technologies d'électrolyse, de photovoltaïque, de piles à combustible existent. Ce n'est pas des choses à inventer, il faut mieux les élaborer. Mais aujourd'hui, dans n'importe quelle maison, c'est ce qu'on avait évoqué dans un article un peu grand public qu'on avait fait pour la science. Qui est sorti récemment. Voilà, vous mettez des panneaux photovoltaïques sur une maison. Dans la cave, vous mettez un électrolyseur et une pile à combustible et puis des bidons pour stocker l'hydrogène, l'eau et l'oxygène. Et cette maison peut fonctionner de façon autonome.
Alors justement, parlons des maisons, de l'habitat. Vous avez fait à l'instant une conférence auprès de lycéens dans le cadre de la fête de la science. Et justement, vous avez parlé de ces maisons qui pourraient être à la fois productrices et consommatrices d'hydrogène. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur ces maisons à venir ?
Oui, ça c'est une idée. Je crois que... En général, quand on parle de cette idée-là, on cite Jeremy Rifkin, qui a développé cette idée que, en effet, on peut imaginer une société dans laquelle chacun est son propre producteur et le propre consommateur de son énergie. Donc, c'est assez révolutionnaire comme idée, parce que, évidemment, ça donne une image de la société qui est de plus en plus individualisée. Il y a d'autres aspects de la vie qui isolent les gens. En même temps, ça a un gros avantage parce que ça rend non nécessaire la mise en place de grosses infrastructures de distribution des nouvelles énergies. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et chacun étant responsable de son énergie, a la capacité de réguler sa consommation. Donc c'est assez intéressant comme idée.
Justement, donc vous expliquez à ces lycéens que concrètement, avec 2,5 litres d'eau, on faisait vivre sur le plan électrique.
Une famille par jour.
Une famille pour un an, c'est ça ? Ou pour un jour seulement ?
C'est par jour, 2,5 litres, oui.
Voilà, alors hors chauffage, vous avez précisé. Et donc, des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison, de l'ordre de 50 mètres carrés.
On avait calculé avec Vincent 55 mètres carrés pour 2,5 litres d'eau, avec des systèmes, avec des rendements un petit peu optimisés. Mais ces chiffres-là montrent que c'est raisonnable, c'est réaliste. Encore une fois, ça coûte trop cher.
On va dire qu'à l'heure actuelle, produire de l'électricité par quel que soit le moyen, s'il est renouvelable, coûte entre 2 à 5 fois plus cher que le prix actuel du kilowattheure. Chez nous, il est nucléaire, mais finalement, je veux dire, le coût de l'énergie est à peu près le même et toutes les énergies sont à peu près au même coût, en fait. C'est la base de notre société. Donc voilà, c'est un coût qui, à l'heure actuelle, est de l'ordre de 2 à 5 fois plus cher. Si effectivement les ressources en énergie fossile viennent à s'épuiser et que le coût de l'énergie augmente, ça deviendra rentable et acceptable. Il faut quand même bien avoir en tête que, alors même qu'on est capable de dépenser des centaines d'euros dans des dispositifs haute technologie à l'heure actuelle, pour une certaine forme de loisir et de qualité de vie, notre société est basée sur une énergie quasiment gratuite, puisque avec 10 centimes d'euros, on a 1 kWh qui correspond au travail qu'un homme produit pendant 10 heures. Donc c'est vraiment ça qui a permis à nos sociétés de se développer. Et le défi énergétique à venir, c'est justement d'arriver à remplacer cette énergie, enfin trouver un moyen de ne plus utiliser cette énergie très peu chère qui est issue essentiellement du pétrole et du nucléaire, et de trouver d'autres moyens parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'énergie.
Alors on parle de coût, effectivement, il y a le coût des matériaux à développer, il y a la recherche aussi qui doit se poursuivre, mais j'imagine que si les industriels s'approprient cette technologie et les recherches qui vont avec, il va y avoir une concurrence qui va se créer. Du coup, le prix de cette nouvelle technologie pourrait baisser. Marc Fontcave.
Oui, bien sûr. Ce qu'on doit espérer, c'est que, en effet, ces nouvelles technologies arrivent dans nos sociétés par ce double mécanisme, à la fois ce qu'a indiqué Vincent, à savoir que plus on va s'approcher de la fin des énergies fossiles, plus le prix va augmenter. Et de la même façon, les industriels qui commencent évidemment à s'intéresser à ces nouvelles technologies, vous avez vu Total a investi dans le photovoltaïque, bon, ils s'intéressent aussi à l'hydrogène, enfin bon. Et donc, ces investissements-là vont aussi conduire à une diminution du coût de ces nouvelles technologies, des nouveaux matériaux moins chers, des rendements meilleurs, enfin, etc., etc. Donc, petit à petit, l'écart, le fameux rapport 2 à 5 dont parlait Vincent, petit à petit, cet écart va diminuer. Maintenant, je pense quand même qu'il faut qu'on prenne conscience que, dans l'avenir, il faudra dépenser plus pour de l'énergie, de toute façon. Plus que ce qu'ont vécu nos parents, par exemple.
Vincent Artero.
Oui, et puis il y a une limite à cette convergence des deux coûts, c'est la disponibilité des matériaux. À l'heure actuelle, on parlait tout à l'heure du platine. Les ressources géologiques du platine sont parfaitement connues au niveau du monde. D'ailleurs, elles sont réparties de manière inégale, comme le pétrole l'est à l'heure actuelle. Donc ça poserait, si on utilisait du platine de manière quasiment exclusive pour l'énergie, ça poserait des problèmes géopolitiques comme il y en a à l'heure actuelle avec le pétrole. Mais surtout, on sait qu'à l'heure actuelle, on extrait 200 tonnes de platine par an. Et on ne sait pas en extraire plus. On ne peut pas tout d'un coup en extraire énormément. Et on connaît également la quantité totale de platine qui est disponible dans la croûte terrestre. Et si on devait équiper tous les véhicules actuels à la surface du globe en piles à combustible à base de platine, ça nécessiterait d'immobiliser le tiers des réserves connues, des réserves mondiales en platine. Et donc on imagine bien que dans notre système actuel, ça ne ferait qu'augmenter le coût du platine.
Et c'est tout votre travail justement, c'est de travailler à remplacer
donc,
le platine.
Donc voilà, il est vraiment indispensable, si on veut arriver à vraiment produire des dispositifs capables d'être démocratisés et mondialisés, il faut qu'ils soient à base de métaux très abondants.
Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent sur ce domaine-là. J'imagine qu'il doit y avoir de la concurrence, donc du coup, ça doit vous motiver ou vous démotiver d'ailleurs, je ne sais pas, Marc Fontcave.
J'ai envie de dire hélas et heureusement, quoi. Hélas parce qu'effectivement, la compétition est stressante, il faut avancer plus vite que les autres. Et heureusement, parce qu'en effet, les enjeux sont tellement importants qu'on ne sera jamais assez pour résoudre les problèmes qui nous attendent. On a démarré ce sujet il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'à ce moment-là, vous voyez, 10 ans, c'est pas très long. Et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de choses. En 10 ans, ça a été une véritable explosion. Les grands centres de recherche du monde entier, en chimie en particulier, en matériaux, en chimie moléculaire, et on parle d'institutions comme le MIT, Caltech, enfin, c'est pas des petites institutions.
Les États-Unis ont énormément investi ces dernières années. Ils ont lancé des programmes il y a maintenant 2 ans. Et on commence, nous, tous les jours, à voir les retombées de ces programmes, puisque les concepts sont dans la communauté scientifique. Oui. Donc, à un moment donné, inévitablement, quand il y a de l'argent dans la recherche, les résultats arrivent. Ce n'est pas une recherche qui coûte très cher. Si on la compare à l'exploration spatiale, si on la compare au CERN, si on la compare à ITER, la chimie n'est pas une recherche qui coûte très cher tant qu'elle reste au niveau des laboratoires. C'est essentiellement du potentiel humain. C'est essentiellement des salaires dont on a besoin et de la formation des jeunes.
Alors, donc c'est une vraie explosion.
Une accélération. Et puis, alors, est-ce que cette fois-ci, on envisage une exploitation industrielle déjà à l'horizon 2030, 2050, ou est-ce que c'est encore prématuré?
Si vous donnez cette échéance-là, oui, clairement. 2040, 2050, oui, il y aura de façon évidente des matériaux du type de ce qu'on a mis en œuvre au laboratoire. C'est vrai que c'est important de soulever cette question parce que pour le moment, il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires, je dirais, académiques. Et même si des entités comme le MIT et le Caltech sont en général assez proches de l'application, on n'est pas encore dans un stade où l'ensemble des industries concernées ont rebondi sur ces recherches-là et sont à l'affût du moindre nouveau résultat pour l'exploiter et aller plus loin. Mais c'est évident que ça va venir.
Eh bien, je vous remercie à tous les deux d'être venus nous parler de cet hydrogène bio-inspiré, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Il me reste à citer plusieurs références pour nos internautes auditeurs qui nous écoutent. Je le disais au début de cette émission, un chercheur, une manip, il y a une vidéo sur le site du Palais de la Découverte à Paris où on vous retrouve, Vincent Artero, nous faire une démonstration justement sur le fonctionnement des piles à combustible. Et puis, Marc Fontecave, on vous retrouve bien sûr au Collège de France pour les cours que vous donnez. Et puis également, on vous retrouve à l'Académie des sciences lors des séances. Merci à vous d'être venu nous voir. Et puis, j'espère à bientôt pour faire le point sur vos avancées. Merci à vous.